Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Si vous dites champagne, spéculation, fête galante, Franck Ferrand va vous répondre Régence. C'est cette étrange période de notre histoire que nous allons explorer cet après-midi en sa compagnie. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est une fascinante parenthèse, c'est le terme que j'ai employé tout à l'heure, que cette période de la Régence, évoquée notamment par deux grands films du patrimoine cinématographique, hein, Le Bossu d'André Hunebelle et Que la fête commence de Bertrand Tavernier, nous allons nous concentrer essentiellement sur l'homme qui a incarner ce régime coincé en quelque sorte entre le règne de Louis XIV et celui de Louis XV, le régent lui-même, Philippe d'Orléans. Et j'ai demandé à l'un de ses plus prestigieux biographes, Jean-Christian Petit-Fils, de nous aider à mieux cerner le personnage.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Benoît via Facebook sur les origines du nom de la région Île-de-France.
Eh bien volontiers, des origines d'ailleurs beaucoup, beaucoup plus anciennes qu'on ne pourrait le croire. Pour le moment, il s'agit de fendre la foule parisienne en direction du Palais Royal, où nous attend tout fringant le neveu de Louis XIV, Monseigneur le Régent.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Tous les messages que vous nous envoyez via Facebook, voilà une émission très attendue. Le régent fait recette, si j'ose dire, et pourtant, son image est un peu brouillée dans l'imaginaire collectif. Si cette image est brouillée, il me semble que c'est d'abord pour trois raisons qui sont tout à fait indépendantes de lui. Évidemment, Philippe d'Orléans souffre de la comparaison avec son prédécesseur. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Louis XVIII, qui succédait à Napoléon, si vous voulez, hein, toute proportion gardée, ou avec Georges Pompidou succédante au général de Gaulle. C'est-à-dire que quand vous venez après Louis XIV, évidemment, vous, que quoi que vous fassiez, vous ne pouvez que faire pâle figure, en tout cas du point de vue de l'historiographie, de l'image qu'on a conservée de vous. D'autre part, il est possible que son image à lui ait pâti, indirectement certes, du caractère ambigu, en quelque sorte inaccompli, de ce terme même de régent, le régent, la régence. C'est un peu comme les termes d'intérim et d'intérimaire, de provisoire, de délégué, etc. Vous savez, ce sont des mots qui ne donnent pas envie d'adhérer, d'une certaine façon. Et puis enfin, il est très possible que le brio même de ce régime, cette période de la Régence qui va durer 8 ans, de 1715 à 1723, il est possible que ce brio ait tout simplement un peu éclipsé le personnage lui-même. Il faut bien saisir le choc qu'a pu être ce changement de régime pour la France de l'époque. Dites-vous, rappelez-vous que Louis XIV avait quand même régné pendant 72 ans. Vous imaginez, c'est phénoménal, dont 54 années de règne personnel, et qu'il y avait eu là-dedans une longue, très longue vieillesse, et puis suivie d'une longue, très longue agonie. La fin du règne de Louis XIV est une sorte de crépuscule qui n'en finit pas, avec des institutions sclérosées, avec des finances tout à fait désastreuses, des mœurs complètement figées dans une dévotion de façade dont nous avons eu l'occasion de parler récemment. Tout ça, évidemment, va faire que, à la mort de Louis XIV, d'un seul coup, les institutions chancellent, les finances vont se réformer en profondeur, on va y venir, c'est fondamental, les mœurs surtout, et c'est ce qu'on a retenu, vont se relâcher d'un seul coup, et donc, comme toujours dans ces cas-là, hors de toute mesure. C'est un peu comme une espèce de chambre mortuaire qu'on aurait laissé confinée comme ça pendant des années, et qui d'un seul coup serait ouverte au grand air, au grand soleil, à la jeunesse, à la vie. La Régence, en tout cas dans l'imaginaire, dans l'idée qu'on en a conservé, c'est une joie de vivre retrouvée. Je cite souvent à ce propos l'enseigne de Gersin. Vous savez, ce tableau, cette enseigne qui avait été peinte par Watteau pour le marchand Gersin, marchand de tableaux, où l'on voit, alors le panneau est assez long, comme ça il est en longueur, un peu comme la vitre que nous avons sous les yeux en ce moment même et qui donne sur la régie, chère Céline. Vous avez sur la gauche des des employés qui sont affairés à ranger toutes sortes de vieux portraits compassés, des scènes d'histoire ou de mythologie, très comme il faut, du règne de Louis XIV. Ils sont en train de ranger tout ça dans une caisse. Et puis de l'autre côté, vous avez d'autres employés, comme par hasard beaucoup plus jeunes, beaucoup plus souriants, qui sont en train de sortir des petites scènes agrestes, des choses très fraîches, très légères, très jeunes et neuves. Évidemment, on voit de quel côté se trouve la vie et le grand air. Toutes ces frimousses charmantes, ces robes amples en taffetas, ces jardins imaginaires pleins de vie licencieuse, avec les masques de la Commedia dell'arte, avec des princes charmants et drôles à la Marivaux, c'est cette époque un peu fantasque et très artificielle qui va laisser son empreinte, bien entendu. On connaît une explosion des formes qui avait commencé sous le règne de Louis XIV, mais qui va surtout être manifeste à partir de la Régence, avec un ciseleur, des ciseleurs comme les Caffieri, par exemple, avec un ébéniste comme Cressant, etc., etc. Or, non seulement Philippe d'Orléans incarne admirablement cette époque, au point de se fondre peut-être un petit peu dans le décor, mais de surcroît, il est en grande partie responsable de ce qu'elle va devenir. Alors, est-ce la France qui s'est conformée au régent, ou le régent qui était un homme tout à fait de son temps? Sans doute un peu des deux, nous allons poser la question tout à l'heure à Jean-Christian Petit-Fils. Sur un plan biographique, ce qu'il faut réaliser, c'est que la Régence ne représente que les 8 dernières années d'une existence de 49 ans. Philippe d'Orléans est né à l'apogée du règne de son oncle, de Louis XIV, et il a quand même vécu 41 ans sous ce règne. Il faut avoir ça à l'esprit pour commencer à comprendre le personnage. Il faut songer aussi qu'il est le fils quand même, et ça c'est inouï, de deux figures absolument extraordinaires. Ce Philippe dont nous allons vous parler aujourd'hui, il est le fils de Monsieur Frère du Roi. Ça s'invente pas quand on sait que Monsieur n'aimait pas du tout les femmes. Hein. C'est enfoncer une porte ouverte, si je puis dire. Prince très raffiné, Monsieur, on va y venir tout à l'heure bien entendu, qui affichait partout une exubérance baroque. Et sa mère n'est autre que la princesse Palatine. Alors déjà, le ménage de Monsieur, deuxième ménage, était particulièrement mal assorti. Mais alors cette princesse Palatine, vous savez, cette femme qui a laissé ses lettres d'une verdeur extraordinaire, qui jurait comme un charretier, qui avait cette bonhomie tout à fait allemande, hein, une femme assez rude de mœurs, très droite, très juste par ailleurs, un personnage intéressant. Mais quand même, voilà le fils de ces deux-là, si je puis dire. C'est assez étonnant. Alors, je l'appelle depuis tout à l'heure Philippe d'Orléans. Pendant très longtemps, il a été Philippe de Chartres. Il était duc de Chartres à sa naissance. Il ne deviendra duc d'Orléans qu'à la mort de son père en 1701. Ce Chartres, il a une position très particulière à la cour. Puisque d'un côté, il est au-dessus de tous les princes du sang. Vous imaginez, il est le fils du frère du roi. Bon. Et en même temps, il vient après la branche aînée, que vous le vouliez ou non, il y a les enfants de France avant, et notamment le grand dauphin, le fils de Louis XIV, qui lui-même a eu 3 fils, hein, les ducs de Bourgogne, d'Anjou et de Berry. Le duc de Bourgogne lui-même va avoir 3 enfants, 3 fils. Donc, vous comprenez bien que pour le duc de Chartres, il y a quand même une forme de malaise existentiel. Et Louis XIV va aggraver cette situation en lui imposant pour épouse en 1692 une des filles légitimées qu'il a eues avec Madame de Montespan. Ça fait un peu tache dans le tableau aussi, si je puis dire. Et d'ailleurs, on a toujours à l'esprit cette page de Saint-Simon. Saint-Simon raconte que Madame, c'est la princesse Palatine, l'épouse de Monsieur, la belle-sœur de Louis XIV, est tellement furieuse qu'on ait marié son fils à une bâtarde que lorsqu'elle le croise l'après-midi même, on disait l'après-dîner dans la Galerie des Glaces, on disait à l'époque la Grande Galerie, elle lui applique un soufflet retentissant. Un soufflet qui a fait tellement de bruit qu'on en parle encore 3 siècles plus tard.
Thank you.
sur Europe 1 un extrait du générique du film Que la fête commence, réalisé en 1975 par Bertrand Tavernier. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Philippe d'Orléans.
Alors, le mauvais mariage, la mésalliance, si je puis dire, elle est de 1692. Moins d'un an plus tard, Louis XIV va confier une responsabilité militaire à son neveu. À l'époque, n'oubliez pas que la France est en guerre quasi permanente avec diverses coalitions d'Europe. Et là, c'est la célèbre bataille de Nerwinden. Philippe a 19 ans à ce moment-là et il va gagner ses galons de lieutenant général en se montrant non seulement un soldat tout à fait courageux, mais un brillant stratège. Aïe, 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 attention! On avait déjà vu son père 10 ans plus tôt subir les foudres de Louis XIV parce qu'il commençait à lui faire de l'ombre. Monsieur, tout prince efféminé qu'il fut, n'en était pas moins un excellent soldat et Louis XIV avait pris ombrage de ses qualités martiales et militaires. Et voilà que le fils tient du père sur le champ de bataille et qu'il se montre excellent. Ça, Louis XIV ne va pas l'accepter et ça crée une ombre entre eux, disons-le. Donc, vous avez bien compris que Philippe a été très marqué par ses parents. Nous allons y revenir, il y avait de quoi. Il est écrasé par cette figure ultra imposante. Enfin, vous imaginez ce que c'est que d'être le neveu de Louis XIV quand même. C'est très difficile. Et puis, par ailleurs, il est déformé, si j'ose dire, par son entourage et notamment par son précepteur, l'un de ses précepteurs, un brillant abbé de cour, ambitieux, machiavélique comme on doit l'être en politique, assez rude de manière mais à dessein, parce qu'on verra qu'en vérité c'est chez lui quasiment un comportement politique, c'est le fameux abbé Dubois qui en 1701 et par la grâce de son pupille va devenir le cardinal Dubois bien entendu. On a envie de dire que dans de telles conditions finalement Philippe s'en tire plutôt bien. C'est un garçon qui est intelligent, qui est distingué, je vous ai dit qu'il était courageux, il est très cultivé, il a l'esprit politique comme on dit et par ailleurs il a ce qu'un autre, n'est-ce pas, avait appelé l'esprit de finesse. La musique, et madame se plaint, sa mère se plaint beaucoup du temps que passe son fils à étudier la musique, elle dit il ne parle que de fa, de dièse et de bémol, c'est vrai qu'il est vraiment dans les partitions, etc. La peinture, tout ça n'a pas de secret pour lui, mais c'est aussi un homme qui se passionne pour la médecine, pour la mécanique, pour la chimie. Donc on a envie de dire un portrait plein de qualités, avec néanmoins, bien entendu, les défauts qui accompagnent ces qualités. Voilà un personnage velléitaire, volontiers insouciant, qui ne poursuit pas. Vous savez, quand il voit qu'on lui oppose de la résistance, il change de terrain. C'est toujours dangereux, ça, en politique. Assez indolent de nature, disons. Avec, par ailleurs, une force tendance à vouloir braver l'interdit. Il tient peut-être ça de son père, de son arrière-grand-père aussi. Hein. Il y a peut-être un peu de d'Henri IV dans tout ça. Et puis, il a une certaine tendance à la débauche. Quand je dis une certaine tendance, certains diraient une tendance certaine. Ça aussi, nous allons y venir, bien entendu. Son statut princier, ne l'oublions pas, lui offre une forme d'impunité. Or, on ne peut pas dire que ce soit le modèle paternel qui lui offre un rôle, un modèle très positif, vous voyez. Cette tendance à la licence, monsieur vit quand même entouré de ses mignons à la cour, hein, c'est un drôle de personnage. Cette tendance à la licence qui en même temps est une forme d'autodestruction sans doute, va se renforcer à partir des premières années du XVIIIe siècle, quand Philippe va entrer en opposition beaucoup plus frontale avec son oncle royal. À l'encontre du climat compassé de la vieille cour de Versailles, lui va se mettre à afficher de façon provocante, délibérément provocante, il va se mettre à afficher des attitudes très libres. On dit que Louis XIV parlera à son propos d'un fanfaron d'incrédulités et de crimes. Cette expression est terrible, mais elle dit bien l'image que pouvait avoir Philippe d'Orléans au sein de la vieille cour. Je dis maintenant Philippe d'Orléans parce que son père meurt donc en 1701 et à la mort de monsieur, en oncle de bonne foi, j'ai envie de dire, et parce qu'il a une sincère affection pour ce qui est son neveu néanmoins, Louis XIV va le prendre sous son aile et d'ailleurs il va essayer de favoriser sa carrière. Ah, c'est une attitude complexe et en demi-teinte. En 1706, il l'envoie en Italie. En 1707, le voilà envoyé en Espagne, à la tête des forces chargées de soutenir sur le trône le deuxième petit-fils de Louis XIV, celui qui est devenu le roi Philippe V. à l'époque en difficulté. C'est donc le petit cousin, si vous voulez, de notre Philippe. Or, au lieu de bons et loyaux services, on finit par apprendre que le duc d'Orléans, quand je dis on finit, c'est le roi qui apprend ça à Versailles, le duc d'Orléans aurait tendance à s'entendre avec un certain nombre d'agents qui travaillent pour l'Angleterre contre Philippe V. Évidemment, dans tout ça, il y a énormément de calomnies. Mais vous pouvez faire confiance à Madame de Maintenon, qui est dans l'entourage permanent du vieux roi, pour souffler sur les braises, bien entendu. Louis XIV, peu à peu, voit rouge. Et en 1708, il rappelle son neveu. Or, on peut dire qu'à ce moment-là, Philippe est devenu un peu à son corps défendant, il n'y peut mais, lui, mais il est devenu le point de ralliement de tout ce que la cour de Louis XIV peut compter d'opposants discrets, parce qu'on n'ose pas s'opposer ouvertement, frontalement à Louis XIV. Le duc d'Antin, le cardinal de Noailles, il y aurait beaucoup à dire. Le célèbre Saint-Simon, bien sûr, et jusqu'au maréchal de Villars lui-même. Il y a autour de Philippe toute une cour assidue contre ce qu'on appelle justement la vieille cour et qui est tenue par Madame de Maintenon avec tous les dévots, n'est-ce pas, autour des princes légitimés, puisque n'oubliez pas que Madame de Maintenon avait autrefois élevé tous ces princes, tous ces enfants de Madame de Montespan. Il y a aussi dans cette vieille cour les jésuites qui jouent un rôle tout à fait important. Donc deux camps, si vous voulez, qui, même s'ils s'affrontent à fleur et mouchetée, on a bien trop peur du grand roi pour s'attaquer ouvertement, ne s'en radicalisent pas moins à la faveur de cette désastreuse guerre de succession d'Espagne qui sera la tragédie de la fin du grand règne. Or, coup de théâtre et d'un théâtre tragique, en 1712, les petits-enfants adorés du vieux monarque, l'espoir, le sang neuf de la dynastie, c'est-à-dire le duc, la duchesse de Bourgogne, leur fils aîné, tous ces héritiers viennent à mourir en l'espace de quelques heures. Vous savez, il y a ce tableau extraordinaire qui est à la Wallace Collection de Londres, où l'on voit Louis XIV assis sur un magnifique fauteuil, avec sur le dossier du fauteuil s'appuyant son fils, le grand dauphin, avec à sa gauche, à la droite du spectateur, le duc de Bourgogne et tout ce monde-là désignant le fils aîné du duc de Bourgogne que tient en lisière Madame de Ventadour. Donc Louis XIV avec trois générations d'héritiers. D'un seul coup sur ce tableau, tout le monde s'éteint, si je puis dire. Il n'y a plus d'héritier du tout, c'est une catastrophe. Quand je dis plus du tout, si, il y a un dernier petit enfant qui va survivre et dont chaque souffle est surveillé de près, bien entendu. Louis XIV voit sa dynastie en grand danger. Or, vous l'avez bien compris, la position du duc d'Orléans, cette position de premier prince de la branche cadette, fait de lui l'héritier tout désigné au cas où le petit enfant, là, le futur Louis XV, viendrait à mourir. Or, on sait qu'au Palais Royal, chez lui à Paris, le duc d'Orléans entretient un atelier de chimie avec un chimiste hollandais. Et aussitôt, après la mort de tous ses princes héritiers, l'accusation va se mettre à courir les salons, les couloirs de Versailles, et puis petit à petit Paris et tout le royaume. C'est le véritable poison de cette affaire, c'est la calomnie, n'est-ce pas? On se met à dire que Philippe aurait pu faire empoisonner tout ce monde-là. Et même un certain nombre de ses partisans, de ses proches, je pense à Fénelon par exemple, vont défendre cette idée. Certes, l'empoisonnement sera démenti par l'autopsie, par les faits, Louis XIV le sait bien, mais il va quand même jusqu'à s'interroger sur l'opportunité d'aller embastiller l'ami chimiste de son neveu, histoire de calmer les esprits. C'est Pontchartrain, le ministre, qui évitera cette dangereuse injustice. Néanmoins, l'état d'esprit de Philippe à cette époque est terrible. Il passe aux yeux d'un grand nombre de personnages, y compris parmi les grands personnages de la cour, pour l'empoisonneur des héritiers de France. Alors il va se renfermer évidemment, il devient encore un peu plus cynique. Son cœur se ferme, si je puis dire, et on peut dire qu'une générosité de commande se met à remplacer chez lui les véritables élans du cœur.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la suite de votre récit sur Philippe d'Orléans.
Si Philippe d'Orléans, dans les dernières années du règne de Louis XIV, a bien une ennemie, ennemie à peine dissimulée, c'est Madame de Maintenon, évidemment. Il y a là-dedans une affaire de susceptibilité maternelle, vous savez, ou en tout cas maternelle par procuration. Madame de Maintenon soutient les princes légitimés, surtout donc les enfants bâtards du roi, et surtout l'aîné d'entre eux, celui qui est boiteux, vous savez, qui souffre d'une malformation d'une jambe, qui est le duc du Maine, qu'elle appelle mon mignon et qu'elle essaie de pousser. Madame de Maintenon est une dame très âgée maintenant, mais elle voit une chose, c'est que le roi aussi est âgé et qu'il est malade et qu'il va finir par mourir un jour. Et elle se demande comment tout ça va tourner. Ce qu'elle veut, c'est mettre en place un système qui, après la mort du roi, lui permettra de continuer à exercer son influence et surtout lui permettra à ses protégés d'être en position de gouverner la France. Vous comprenez d'ailleurs pourquoi la mère de Philippe, la mère de Philippe d'Orléans, la princesse palatine, appelle Madame de Maintenon, la guenipe, la vieille ripopée, etc. La haine entre ces deux femmes, c'est une question de concurrence maternelle, essentiellement. Le seul héritier direct de Louis XIV est un tout petit enfant à la santé fragile. Or, le premier ensuite, dans l'ordre de succession, c'est Philippe, le neveu unique du roi. Bon. Donc, Louis XIV ne peut pas bouleverser l'ordre normal des choses. Il y a des lois fondamentales du royaume. Il n'a pas l'intention de retirer la régence à son neveu par disposition testamentaire. Mais il y a autour de lui des gens, et quand je dis des gens, d'abord Madame de Maintenon, qui vont profiter de sa maladie, de son agonie, pour essayer de faire en tout cas d'infléchir un peu sa décision. Et ce que voudrait Madame de Maintenon essentiellement, c'est que l'on déconnecte, que l'on distingue dans la régence qui se prépare, puisque le petit roi sera le successeur de Louis XIV sera un tout jeune enfant, il a 5 ans, hein, qu'on déconnecte les affaires du royaume et l'éducation du roi, sachant que l'éducation du roi, ça vous donne évidemment immédiatement barre sur bien des choses. Or, à qui le couple de vieillards, si je puis dire, va-t-il confier cette éducation? Eh bien justement, au doux et boiteux duc du Maine, qui est en charge d'emblée de la maison militaire. C'est très important. Pour Philippe, ça c'est une atteinte directe à ses droits. C'est en quelque sorte le dernier coup de griffe du vieux lion. Un coup de griffe qui est d'ailleurs adressé moins au neveu lui-même peut-être qu'au parti qu'il représente et dont Louis XIV a toujours eu tendance à se méfier. Faut pas oublier que chez Louis XIV, le souvenir de la Fronde est toujours resté vivace et jusqu'au fond et jusqu'au bout. Alors comment réagir? Eh bien, Louis XIV meurt le 1er septembre 1715. Dès le surlendemain, le duc d'Orléans est au Parlement de Paris pour une séance historique que Saint-Simon a si bien décrite, hein, en long, en large et en travers. Sur les instances de Philippe parlant au nom des lois fondamentales du royaume, les parlementaires de Paris vont donc casser le testament du vieux roi. Louis XIV n'était pas dupe du reste. Il l'avait dit au cardinal de Noailles, le testament cassera tout cela, mais au moins on me laissera mourir en paix, avait dit le vieux roi. Lit de justice, c'est-à-dire séance exceptionnelle en présence du nouveau petit roi, le régent, donc Philippe d'Orléans, se fait donner les pleins pouvoirs, il se fait restituer la garde du jeune souverain, excite le duc du Maine qui s'en ira comploter plus loin. Ça aussi, nous allons y venir. Non seulement Philippe va être régent à part entière, mais donc l'éducation du jeune roi relèvera désormais de son entière responsabilité. Seulement, comme toujours en politique, ce genre de coup de force se paie d'une grosse concession. Le Parlement traditionnellement représentait les intérêts de la grande noblesse, et bien en échange de ce soutien vital pour lui, Philippe va lui octroyer, peut-être aussi était-ce sa conviction du reste, par édit royal du 15 septembre 1715, Philippe va reconnaître le plein droit de remontrance aux parlementaires. Ça c'est un droit qui avait été aboli par Mazarin, parce qu'il paralysait littéralement la monarchie. On peut dire que dès les premières heures, le ton de la régence est donné. Pendant un peu plus de 7 ans désormais, la parole sera à la noblesse, la haute noblesse, aux seigneurs naguère encore imbus de leurs droits féodaux, qui redressent la tête dès que la bourgeoisie que représentait Louis XIV, avec ses ministres, son administration, se trouve reléguée au second rang. La première réaction du régent et de ses conseillers, au premier rang desquels l'abbé Dubois, c'est de tirer un trait sur la période précédente, d'aérer le pays. Je parlais tout à l'heure, tout simplement, d'aérer la chambre. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils. Votre très belle biographie du régent, qui est en même temps une analyse de toute cette époque, vient de paraître en édition augmentée chez Pluriel. Et avec vous, nous allons revenir maintenant sur ce qui s'ouvre devant nous, c'est-à-dire ce nouveau et mystérieux régime.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire et vous nous parlez aujourd'hui, Franck Ferrand, du Régent, avec votre invité, Jean-Christian Petit-Fils, historien et écrivain, spécialiste de l'Ancien Régime, auteur notamment du Régent, qui vient d'être réédité en format poche aux éditions Pluriel.
Je sais qu'un certain nombre d'étudiants travaillent en ce moment sur cette question du Régent, alors je vais faire une petite parenthèse, un poil plus historique que d'habitude si vous le voulez, mais c'est ce que nous étions en train de dire avec Jean-Christian Petit-Fils pendant la publicité. Là, ce droit de remontrance, vous savez, qui permettait donc aux parlementaires d'avoir leur mot à dire sur les édits royaux. Le Parlement était là pour enregistrer les édits, mais il avait le droit donc de faire des remontrances. Et bien ce droit de remontrance avait été encadré sous l'influence non pas de Mazarin mais de Colbert en 1667. Et alors, ça aboutissait, me disait Jean-Christian Petit-Fils, qui ne manque pas de sel, ça aboutissait à autoriser les parlementaires à faire des remontrances, mais après avoir enregistré les édits. Autrement dit, parlez toujours, mais en tout cas, vous obéissez au roi. À partir du régent, on va retirer ce droit de remontrance. Ça, c'est un rôle.
On va le restituer.
C'est ça. On va retirer les limitations. Donc, on le rend aux parlementaires.
Exactement. Et ça, on peut dire que c'est une faute politique de Louis XIV et non pas tellement du régent. Le régent a voulu récupérer ses droits à la régence, puisqu'il était simplement dans le testament de Louis XIV nommé que chef du conseil de régence.
Bon, et ça, on avait beaucoup amoindri ses fonctions.
C'était inadmissible. Alors, bien entendu, il y a eu le poids de Madame de Maintenon qui a voulu encadrer ce régent, qui est un personnage, vous l'avez très bien montré rapidement, mais dans un portrait très très complet, qui a des qualités étonnantes, un homme qualité militaire, mais aussi une grande intelligence, une mémoire exceptionnel. Saint-Simon dit, il ne lisait pas, mais il suffisait de parcourir un livre et immédiatement, il enregistrait tout. Un caractère indécis, c'est sûr, mais en même temps très chaleureux, très accueillant, tout en gardant un sens de la majesté très profonde.
Il faut dire qu'il était beau quand même. J'ai pas parlé de son physique. Enfin, quand
oui,
je dis beau, il portait beau, pour être
oui,
plus exact.
Oui, c'est ça. Alors, en 1715, donc il a 41 ans, il est quand même assez
enveloppé,
court,
hein,
assez
oui.
épais, voilà. Il est toujours congestionné, probablement qu'il fait des abus de nourriture, de soupers fins.
De plaisirs divers et d'alcool, notamment.
D'alcool, mais bon, on dit qu'il lui suffisait de boire deux verres de champagne pour immédiatement être ivre. C'est ce que dit sa mère, en tout cas. Alors, donc c'est un personnage très, très séduisant, très, très, très intelligent, très fin, qui a été obligé, par l'erreur commise par Louis XIV, de restituer ce droit de remontrance, lequel va empoisonner toutes les relations entre la monarchie et le pouvoir royal jusqu'à la Révolution.
Alors, ce qui est fascinant, c'est que cette régence, toujours présentée comme un régime très aimable, finalement, c'est la jeunesse après la vieillesse, d'une certaine façon, c'est le renouveau, la régence. Bon, et bien en même temps, si vous regardez bien, c'est une révolution politique tous azimuts. On va y revenir dans le détail, Jean-Christian Petit-Fils, mais sur un plan religieux, évidemment, les jésuites vont souffrir là d'un seul coup, et toute la politique qu'on appelait ultramontaine, qui consistait à s'entendre directement avec Rome, va être remise en cause. Les finances, alors, qui fonctionnaient par le système de la ferme générale, alors là on va voir la profondeur des réformes du régent et leur caractère dangereux, bien entendu. Pour ce qui est de la forme même du gouvernement, Louis XIV avait habitué les gens depuis longtemps maintenant, depuis 25 ans, à travailler selon le système qu'on appelait la liasse, c'est-à-dire qu'il était en tête à tête avec les ministres et il gérait les affaires directement avec les secrétaires d'État. Là, d'un seul coup, on va rétablir des conseils, ce sera ce qu'on appelle la polysynodie, on va y venir là aussi. Et puis, sur un plan diplomatique, ça c'est peut-être ce qu'il y a de plus criant, de plus incroyable, l'alliance catholique indestructible avec cette Espagne où règne le petit-fils de Louis XIV, eh bien elle va faire place à un renversement des alliances. Et là, c'est sans doute le rôle du cardinal Dubois, on va y venir aussi, bien sûr. Donc, on peut dire que tous azimuts, le régent, le neveu de Louis XIV, est en rupture avec les politiques de son oncle.
Oui, c'est assez curieux parce que quand on regarde de façon un peu superficielle l'histoire de la Régence, on a un peu le tournis. Parce que, sur le plan de la politique étrangère, le régent soutient d'abord le prétendant jacobite Jacques III, on appelle le chevalier de Saint-Georges, qui veut reconquérir son trône face au Hanovre, Georges Ier. Et puis, brusquement, on va se convertir sous l'influence, vous l'avez dit, de l'abbé Dubois, son précepteur, à une entente avec l'Angleterre, qui était tout à fait intelligente et tout à fait remarquable, parce qu'il s'agissait de souffler, de préserver la paix à la suite de cette terrible guerre de succession d'Espagne, qui avait laminé la noblesse en particulier. Donc, c'était une très belle politique. Et puis, finalement, on va, à la fin de la Régence, se retourner, faire la guerre contre l'Espagne, et puis, à nouveau, se réconcilier avec l'Espagne. Donc, on a déjà un sentiment d'incompréhension. Et tout cela, il y a quand même un fil directeur. Sur le plan intérieur, on le voit aussi, avec cette expérience de la police inaudite.
Alors, qu'est-ce que c'est la police inaudite?
Alors,
qu'est-ce
que c'est que ces conseils? C'est le gouvernement par conseil.
Alors, c'est ça fait un tout petit peu penser à des périodes beaucoup, beaucoup plus récentes, si je puis dire.
Oui.
Avec tous nos comités, nos hauts comités, nos commissions.
Si vous voulez, dans un certain sens, oui. Mais c'est donc à la place d'un gouvernement centralisé autour du Conseil du Roi, lequel Conseil du Roi devenait en effet à la fin, sauf des cas exceptionnels, une chambre d'enregistrement, le roi travaillant en direct avec ses comités et ses ministres.
Il y avait dans les pratiques administratives du royaume ces vieux conseils, de ce Conseil du Roi. Alors il y avait plusieurs conseils, on va pas entrer dans tous les détails. Mais en tout cas, ce conseil était là pour entériner les décisions royales. Et puis alors ensuite, elles étaient enregistrées donc par le Parlement. Là, d'un seul coup, ce ne sont plus les secrétaires d'État, c'est-à-dire, on dirait nous, ce ne sont plus les ministres qui gouvernent, ce sont dans chaque département des conseils qui prennent leur place,
c'est ça. Alors, il y a 6 conseils. Le conseil de conscience, le conseil des affaires étrangères, le conseil de guerre, le conseil de finances, le conseil de marine et le conseil du dedans, c'est-à-dire l'intérieur. Ministère de l'intérieur, on dirait aujourd'hui. Et puis, on en a rajouté un autre, le conseil du commerce. Tout cela vient de l'influence d'une idéologie aristocratique, nobiliaire, car cette régence, cette période de régence est dominée par la réaction aristocratique, y compris
dans
les mœurs.
Et oui.
Cette réaction aristocratique, ça s'explique très bien, c'est que, contenu par Louis XIV pendant tout son règne, obligé de venir à Versailles, d'exercer des charges à la cour, la haute noblesse veut se libérer et la régence, c'est un peu cette période de libération avec le libertinage, mais un libertinage aristocratique. Quand nous regardons ce qui se passe dans le menu peuple, comme on dit, chez les paysans, la paysannerie, 85% de la population vit nous avons jamais vu un tel niveau de pureté de mœurs, dans un certain sens. C'est-à-dire que, à ce moment-là, les curés mieux formés par le mouvement de la contre-réforme arrivent en place et le taux de naissance illégitime est le plus faible par rapport à la période de Louis XIV. C'est 1%, 1,5%. Le nombre de naissances illégitimes donc est très très bas. Le nombre de messalisants, c'est-à-dire ceux qui vont à la messe tous les dimanches, est à peu près de 95%. Ceux qui font leur Pâques, le jour de Pâques, à peu près aussi du même ordre. Donc, il faut relativiser un peu cette période de libertinage.
Oui, bien sûr, là, on parle de Paris.
C'est
bal,
c'est jeu,
sûr,
oui, voilà. Tout cela, en fait, c'est l'aristocratie qui s'amuse et qui se libère
de Louis XIV. Mais voilà, et ça c'est très intéressant parce que ça puise, ce mouvement-là, il puise des racines dans des siècles très anciens. Il y a tout ce vieux mouvement de la monarchie française avec Philippe le Bel, avec Louis XI, etc. Et puis bien sûr, avec Louis XIII et Louis XIV surtout, j'ai presque envie de dire avec Richelieu et Colbert, qui va consister à donner plus de pouvoir, de plus en plus de pouvoir à la bourgeoisie, et surtout à administrer le royaume. C'est ce que Saint-Simon dénonce comme la monarchie administrative, qui pour lui est la source de tous les maux. Bon. Et contre cette espèce de technocratie avant l'heure, si je puis dire, vous avez la haute noblesse qui, elle, estime qu'on lui a pris ses pouvoirs, qu'elle a perdu son rôle essentiel de gouvernement, et qui va constamment, par vagues, essayer de reprendre le pouvoir. L'un des moments où cette haute noblesse noblesse reprend le plus le pouvoir, c'est précisément c'est la régence.
C'est la régence. Ça avait été initié au départ par ce qu'on appelle le petit troupeau des saints, c'est-à-dire le duc de Chevreuse, le duc de Beauvilliers, autour de l'héritier du trône, le duc de Bourgogne, donc petit-fils de
Louis
XIV.
Celui qui va mourir en 1712.
Fénelon aussi avait participé à ce mouvement et on avait écrit une sorte de constitution qu'on appelle les tables de Chaune qui correspondent à ce qu'on va expérimenter à cette époque. En fait, Philippe d'Orléans est obligé, il faut bien comprendre que pour récupérer le pouvoir, il a été obligé de s'allier avec les jansénistes, de s'allier avec tous les opposants à Louis XIV, donc certains nobles tenus à l'écart, de s'allier avec les parlementaires pour s'installer. Mais il a, on peut l'estimer, beaucoup de suspicions. Il doute fort de ce régime de police inaudite. À tel point qu'il va garder même la surintendance des finances, l'ordonnancement des dépenses. Tout ça va, il va le garder. Et puis, peu à peu, eh bien, il va laisser ces gens discuter, l'anarchie s'installer, et il va reprendre au bout de 3 ans le pouvoir, et on va réinstaller un nouveau conseil de régence, et les secrétaires d'État vont reprendre, récupérer leurs fonctions.
En fait, vous montrez bien qu'il y a donc deux régences, une première régence libérale et une deuxième régence autoritaire qui va renouer avec un grand nombre des principes du règne précédent,
absolument.
En vérité. Hein.
Au fond, le régent a essayé de maintenir la paix. Il y a eu 3 régences en un siècle, hein, de 1610 avec Marie de Médicis, la mort de Louis XIII, Anne d'Autriche. Et à chaque fois, pendant ces 2 premières régences, en tout cas, il y a eu la guerre civile. Eh bien, sous le règne, entre guillemets, ou sous la régence plus exactement, de Philippe d'Orléans, il n'y a pas eu de guerre civile.
Au contraire.
Et ça a été cette volonté de Philippe, alors de naviguer entre les écueils. Donc, cette impression, évidemment, de désordre, en réalité, montre une volonté constante de la part de Philippe d'Orléans de restituer intact le pouvoir au jeune Louis XV.
Oui, donc un grand sens du devoir, mais qui se heurte évidemment à une nature, on l'a dit, velléitaire, inconstante. Et puis alors, à donner au plaisir. Il faut dire quelques mots de Madame de Prie, enfin, il faut dire quelques mots de ses maîtresses, alors, de la vie qu'il mène quand
bien
même.
Bien entendu. Alors, il est lui aussi, dès sa jeunesse, à 13-14 ans, il commençait déjà à avoir quelques aventures. C'est sa mère qui en est très très fière d'ailleurs. Et puis donc, il a vécu avec Mademoiselle de Sery, comtesse d'Argent. Argenton pendant une dizaine d'années, donc alors qu'il était marié, il a eu différentes maîtresses comme Madame de Parabère, Madame de Tencin, Madame de Sabran, Madame d'Averne, des filles d'opéra. Donc il a en effet eu énormément d'aventures.
On dit même qu'il avait une relation très proche avec sa propre fille.
Oui, alors la duchesse de Berry, qui était une fille assez malade, enfin et alcoolique en fait, avec des crises de mysticisme étranges. Personnage. Il l'aimait beaucoup, mais il y a eu des attaques absolument venimeuses venant d'ailleurs de sa belle-sœur, Madame la Duchesse, donc une Bourbon, sœur de sa femme, Mademoiselle de Blois, donc fille de Madame de Montespan, qui a répandu toutes ces calomnies. Non, jamais, bien entendu, le régent ne s'est adonné à de telles choses.
Calomnie. Alors, vous nous dites qu'il a conservé la haute main sur les finances, pas forcément pour le mieux, car ce qu'on a aussi retenu de la régence, c'est évidemment ce système de on dit de l'AS, mais ça s'écrit l'OLAW, c'est-à-dire ce système bancaire. On va imprimer, c'est une grande première en France, du papier monnaie.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
midi sur Europe 1, un extrait de L'Orage, extrait du concerto pour violon Les Quatre Saisons, interprété par Nigel Kennedy. Nous sommes au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand du Régent, avec votre invité Jean-Christian Petit-Fils, historien et écrivain, spécialiste de l'Ancien Régime, auteur notamment du Régent, qui vient d'être réédité en format poche aux éditions Plurielles.
Oui, magnifique ouvrage, on peut dire que nous ne faisons, nous évidemment, vous l'avez compris, que effleurer le sujet, là on donne les grandes lignes, mais vous Jean-Christian Petit-Fils, vous êtes allé tout à fait au fond des choses. Alors L'Orage, ça n'est pas seulement celui de Vivaldi, c'est L'Orage sur les finances. Avec qu'est-ce que c'est que ce système, on va dire de Law, hein, c'est plus simple.
Alors John Law, c'est un le fils d'un orfèvre d'Édimbourg qui a tué en duel un rival en Angleterre,
donc,
qui
un,
a été condamné
bonhomme,
à mort,
mais
et
pas très net.
Hein,
pas très net.
Et c'est un faiseur de système, un homme très intelligent, très habile, très astucieux. Qui a une capacité de changement et d'adaptation tout à fait remarquable et qui, déjà du temps de Louis XIV, avait, comme beaucoup de faiseurs de système, envoyé un mémoire, contacté les ministres en disant « voilà, j'ai un plan fabuleux, on va démonétiser les métaux précieux, on va créer une abondance de moyens de paiement pour relancer l'activité économique, donc on va créer, imprimer du papier monnaie ». L'idée est intéressante, mais sous Louis XIV, malgré les difficultés financières, on n'a pas donné suite. Le grand problème des finances de la monarchie, c'est l'absence de banque d'État. L'Angleterre avait une banque d'État.
Ça, c'est la base,
c'est la chose à retenir. Les Pays-Bas, les Provinces-Unies avaient leur banque, leur institut d'émission, qui permettait de faire des avances au trésor pour payer les gardes françaises, les gardes suisses, pour faire les fins de mois de l'État. Eh bien, il n'y avait pas. De sorte que l'État était obligé d'emprunter à ses propres officiers comptables, à des taux usuraires. Eh bien, c'est cela que veut réformer complètement et que va réformer complètement le système de Law. Alors, il va créer, en accord avec le régent qui, lui, va être intéressé par cette idée, parce qu'il aime bien tout ce qui est neuf.
Puis il est anglophile, hein, il a tout
ce côté-là. Il est anglophile, et puis il aime bien la nouveauté, contrairement à Louis XIV, qui était plutôt
plus conservateur.
Oui. Voilà, il aime cela. Alors, on va créer une banque privée, qui va être la Banque Générale. Cette banque va émettre des billets, et puis va absorber, et c'est ça l'intérêt pour l'État, tous les billets qui prolifèrent du temps de Louis XIV, parce qu'on n'avait plus les moyens de créer des espèces correspondantes. Et puis à côté de cela, il va créer une compagnie commerciale qui va d'abord s'appeler la Compagnie d'Occident et qui peu à peu va se transformer en Compagnie des Indes. Il s'agit là d'exploiter les ressources du Mississippi. Le système va
nouvelle colonie considérée comme une grande
colonie. Alors Mississippi, hein, c'est la Louisiane, une terre qui est quasiment inhabitée, mais donc on connaît les ressources. Le système de Law, c'est la combinaison des deux, c'est-à-dire la combinaison de la banque qui va se transformer en banque d'État, et puis de la Compagnie des Indes. La banque va émettre des livres papier, et puis la Compagnie des Indes va émettre un certain nombre va procéder à un certain nombre d'augmentations de capital. L'engouement va être énorme, on va se précipiter sur ces actions, on va rapporter du vieux papier déprécié en paiement de ces actions nouvelles, donc c'est très bon, tout bénéfice pour l'État, bien sûr, et le succès est absolument prodigieux. Et peu à peu, l'or, l'argent sortent des bas de laine. On n'avait jamais vu ça.
Les fameuses économies des Français.
On va donner à cet ensemble, Compagnie des Indes, l'exploitation de la ferme des tabacs. C'est pas suffisant. On va leur donner l'exploitation de la ferme générale, donc tous les impôts indirects.
Hein, oui, ouais.
Et puis même, les impôts directs vont être remis, la gestion des recettes des impôts directs va être remis à cette compagnie. Donc c'est un énorme appareil, banque et compagnie, qui n'est pas du tout une expérience libérale, c'est une expérience dirigiste qui va donner lieu à une fièvre de spéculation, le fameux bossu qui a existé, le bossu de la rue Quincampoix qui prêtait sa bosse pour qu'on puisse signer immédiatement les transactions. On considère Law comme un magicien qui devient contrôleur général, surintendant, couvert d'or. On se précipite comme un roi autour de lui.
Jusqu'au jour.
Et puis voilà, Alors, tout cela s'entraîne entraîne une corruption des mœurs, une frénésie d'argent, de dépenses. Il y a un parent du régent, le comte de Horn, qui commet un crime abominable et le régent va le laisser mourir en disant « quand j'ai du mauvais sang, je me le fais tirer ».
C'est la saignée.
C'est la saignée. Donc il y a un grand désordre autour de tout cela. Et puis il y a des fortunes. Un laquais se fait une fortune prodigieuse. Et on a raconté l'histoire du laquais qui prend la place du marquis alors qu'il était derrière le carrosse quelques temps avant. Bon, tout cela évidemment c'est très anecdotique. Mais,
oui, mais ça
il y a
donne
quand même
image
un grand bouleversement des fortunes. Et puis... tout le système reposait sur la confiance. Et à partir du moment où la confiance peu à peu s'est dégradée, eh bien, malgré les efforts de John Law de contrer, de parer, parce qu'il est, je l'ai dit, très habile à tout ce système, multipliant les ordonnances, les interdits, eh bien, le système va s'effondrer. Le prince de Conti va arriver à la banque en demandant le remboursement, parce qu'il y avait une convertibilité intégrale son papier monnaie en or. Et tout le mouvement, évidemment, va suivre. Le prince de Condé aussi, tout le mouvement va suivre. C'est-à-dire qu'on revient et là, la banque n'a plus d'argent, est obligée d'arrêter les paiements. Tout ça donne lieu à des émeutes, l'émeute de la
République. On imagine, oui, c'est une catastrophe pour certaines...
Il faut liquider le système avec une démonétisation des billets. Mais... globalement, cette expérience n'est pas si mauvaise que cela.
Vous nous la montrez même comme une expérience globalement tout à fait positive. Mais il ne faut pas oublier quand même l'incroyable impact qu'a eu cette banqueroute. C'est un choc terrible tout de même, il faut le dire.
Un choc dans la société, voilà, bien sûr, parce que ça bouleversait les rangs. Mais les effets positifs, ce sont les effets keynésiens, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire cet afflux monétaire.
À
relancer l'économie, à libérer l'État d'une grosse partie de la dette. On signale un peu partout en province des terres qui étaient en friche, qui sont remises en culture, etc. Donc, finalement, l'expérience de Loss a amorcé l'ouverture vers cette douceur du XVIIIe siècle, douceur toute relative, évidemment, aujourd'hui. Mais on n'est plus du tout dans ces années de misère que Louis XIV a connues.
Il y a de la prospérité, tout simplement, qui va devenir ensuite beaucoup plus grande encore sous les ministères suivants de Bourbon et surtout Fleury au début du règne de Louis XV. Prospérité, paix civile, nous dites-vous, rééquilibrage diplomatique, ça on n'a pas le temps d'en parler, mais enfin c'est toute cette histoire du renversement des alliances, et ça nous conduirait
et
à parler...
Paix, et la paix avec l'Angleterre.
Et la paix avec l'Angleterre, fondamentale.
Une petite guerre avec l'Espagne, parce que l'Espagne était très belliciste, mais finalement, une réconciliation avec l'Espagne.
Beaucoup de mansuétude de la part du régent envers tous ceux qui ont essayé de le trahir, et notamment de monter contre lui des complots, et j'ai à l'esprit la conjuration de Celle-Lamar, dont on n'aura pas le temps de parler, mais qui est importante aussi. Enfin,
d'opérette de la duchesse du Maine. Par contre, le régent est implacable en ce qui concerne la conspiration Pancalec, parce que ça se passe pendant la guerre, des nobles bretons qui sont exécutés.
Et là, c'est la souveraineté qui est en cause. Et ça, c'est peut-être ce qu'il faut retenir in fine de tout ça, c'est l'extraordinaire loyauté de cet homme qu'on dit débauché, qu'on dit velléitaire, qu'on dit révolté contre un certain nombre d'institutions, et qui va remettre, d'abord qui va faire sacrer le jeune roi à Reims, le 25 octobre 1722, et qui va lui remettre, au moment où il est déclaré majeur, le 16 février 1723, il va lui remettre la régence, le pouvoir tel qu'il l'a reçu, il va lui remettre une France pacifié, apaisé, prospère, il les lui remet entièrement, il a accompli son rôle et il ne garde rien pour lui.
Tout à fait. Pierre Narbonne, qui était le premier commissaire de police de Versailles, écrit dans ses mémoires « Le duc d'Orléans entra dans la régence en renard et s'y maintint en fin politique ». Et en effet, on peut dire qu'il a restitué à Louis XV la plénitude de la monarchie.
Et là, si je puis dire après ça, très peu de temps après, la politesse de s'effacer, il meurt jeune encore à 49 ans. Bon, on a parlé de ses excès divers, donc il meurt d'une crise d'apoplexie. Est-ce qu'il est mort entre les bras de sa maîtresse, véritablement ?
Non, alors d'abord c'est Madame de Falary qui n'est très probablement pas sa maîtresse, parce qu'à cet âge-là, il avait commencé déjà à avoir quelques faiblesses. Et non, d'après les aveux de Madame de Falary, c'était une jolie conteuse et il aimait bien s'entretenir avec elle. Mais en effet, il meurt sous ses yeux.
En fait, on peut dire, Jean-Christian Petit-Fils, que le portrait qu'on vient de brosser est le portrait d'un homme de qualité qui a rendu de grands services à la France.
D'un grand capétien.
Oui. Ben, c'est pas tellement l'image qu'il a laissée dans l'histoire, comme quoi vous voyez.
C'est pour ça qu'il faut le réhabiliter.
Le Régent, une toute nouvelle édition chez Pluriel, ce magnifique ouvrage de Jean-Christian Petit-Fils. Vous avez bien compris que Jean-Christian Petit-Fils entre beaucoup plus à fond dans toutes ces questions que nous n'avons fait qu'effleurer aujourd'hui. Mais le sujet était vaste et je suis ravi qu'on ait, j'espère, donné à nos auditeurs envie d'en savoir davantage sur cette Régence.
Dans un instant, sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Benoît sur les origines du nom de la région Île-de-France.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Benoît qui nous l'a envoyé sur la page Facebook de l'émission, qui voudrait connaître l'origine du nom de la région Île-de-France.
L'origine officielle, la région en tant que telle, l'Île-de-France administrative, si je puis dire, c'est très récent, c'est 1976, hein, c'est l'installation des régions, tout simplement. Avant, on parlait essentiellement de région parisienne, mais on disait néanmoins Île-de-France. Ça, ce terme, alors lui, il est très ancien, il apparaît pour la première fois, semble-t-il, dans les chroniques de Froissart, un des grands chroniqueurs de l'époque médiévale. On est au XIVe siècle. Alors, France, on voit d'où ça vient. Hein. Au Moyen-Âge, le terme de France, ça ne désigne pas du tout le pays comme aujourd'hui. En tout cas, dans le haut Moyen-Âge, ça désigne cette région, ce domaine, ce pays soumis au roi franc. C'est la région qui paraît la plus franque, nous dit Marc Bloch dans son ouvrage justement sur l'Île-de-France. Une région de plus en plus identifiable à mesure que vont se développer les grands états féodaux de l'époque, Flandre, Champagne, Normandie, etc. On peut dire que la France se définit par défaut d'une certaine façon. Mais alors, pourquoi l'île de France? Pourquoi cette expression d'île? Eh bien, il faut savoir que les alentours de Paris sont cernés par les eaux. Entre la Seine qui traverse la région de part en part, certains disent que c'est Lyon, mais j'entrerai pas dans ce débat. La Marne, l'Oise au nord, le territoire ressemble effectivement à une île au milieu de la France. Une autre explication laisserait penser que l'île de France résulterait d'une altération de l'expression « Lidl Frank » qui voulait dire « petite France » en langue franque. Mais vous savez, il y a toujours des gens pour aller couper les cheveux en quatre.